le thème dans lequel j'aimerais bien vous conduire de nouveau, c'est le thème oser, oser la foi. Oser, le verbe qui s'écrit avec un R, mais en remplaçant le R par un Z, ça devient un impératif, une invitation. Oser, ça s'adresse à vous, ça s'adresse à tous ceux qui l'entendent. Et aujourd'hui, le thème, c'est oser la foi, en parler aux autres. Parler aux autres de notre foi. Certains se demandent, mais comment le faire? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont plus aptes de le faire? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à raconter de ce qu'ils vivent dans la foi? En tout cas, ce n'est pas si évident. Et parce que nous avons vu cette évangélisation clique la vie, je me disais, ça va très bien, oser parler de la foi qui est la nôtre, de ce que nous avons vécu, pour inviter d'autres personnes à venir auprès de Jésus et de vivre et de découvrir ce que nous avons nous-mêmes découvert. Parce qu'on ne peut que parler de ce qu'on connaît. Toute autre chose est théorie et les gens n'ont pas envie d'entendre les théories sur Dieu. Ils veulent avoir du concret. Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu peux être sûr que c'est vrai, que ce que tu as vécu te vient de Dieu et pas du hasard, des circonstances et quel autre nom on met dessus. Donc, je vous emmène aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, et les versets 35 à 42. Et il y a deux tableaux. Et je vous invite que l'un nous lit à haute voix le premier tableau et quelqu'un d'autre prend la suite.
Le lendemain, Jean-Baptiste était encore là au Jourdain avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui veut signifie maître. Où habites-tu?
Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allaient, donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus.
Il a conduit à Jésus. Est-ce que vous n'aimeriez pas accompagner une personne? Le faire suivre? Suivre le chemin que vous avez emprunté? Et l'emmener à Jésus pour qu'il découvre cette personne, la foi, elle aussi. Oser la foi, en parler aux autres. André, c'est un homme très simple, comme d'ailleurs les premiers disciples de Jésus. Ce n'étaient pas des savants, c'était des ouvriers, des artisans, des pêcheurs. André de Bethsaida, sur la mer de Galilée, était de profession donc pêcheur, et il était fils cadet d'un homme qui est devenu plus connu dans la Bible, parce qu'il avait la plus grande gueule. En général, ce sont ces personnes-là qu'on connaît facilement, ils ont la grande gueule. Et je parle de Pierre. Pierre, toujours un mot à dire, à temps ou pas à temps, c'était quelqu'un qui laissait beaucoup d'autres dans son ombre. En d'autres, son frère cadet. D'ailleurs, qui est frère cadet? Ma soeur? Cadet, le plus petit des frères, parmi les frères. Okay. C'est comment d'avoir un frère aîné? Ça peut être chouette, hein, mais ça peut être aussi difficile. Hein, d'être le petit, le deuxième ou le troisième. Voilà. Donc André, lui, il a entendu d'abord parler de Dieu par le dernier prophète que Dieu a envoyé pour annoncer la venue de Jésus. Et ce prophète, vous le connaissez tous, Jean-Baptiste, qui a baptisé les personnes en vue du pardon pour leur péché. Et il était devenu donc disciple de Jean-Baptiste, il le suivait. Et il était aussi avec Jean-Baptiste au moment où Jésus du Nazareth s'approche du Jourdain pour se faire baptiser lui aussi. Et à ce moment-là, Jean-Baptiste dit, en voyant Jésus passer, « Voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. » Jean-Baptiste, lui, il est venu pour baptiser pour le pardon des péchés. Et pour compléter le message du pardon des péchés, Dieu envoie celui qui va ôter, qui va résoudre, qui va payer pour ce péché annoncé par Jean-Baptiste. Et quand André a entendu « Voici l'agneau de Dieu », peu de temps après, il avait un entretien avec Jésus, et ce temps qu'il a passé avec Jésus l'a pleinement convaincu que c'est Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Messie, venu dans ce monde. Et dans la suite de cette découverte, il emmène son frère aîné, Pierre, aussi à Jésus. Et Pierre, lui aussi, découvre la foi. André, un homme par lequel Jésus commence à construire l'Église. Est-ce que tu aimerais bien que le nom d'André soit remplacé par le tien? Pas trop. Ok. Est-ce que tu aimerais bien que le nom d'André soit remplacé par le tien? Eva, une femme par laquelle Jésus commence à construire l'Église. Hein? Sébastien, un homme par lequel Jésus commence à construire l'Église. Et là, mettez votre nom. Ça vous tente? Que vous soyez intégrés dans le plan, dans l'œuvre de Dieu, et que tu sois une personne importante pour une autre ou pour bien d'autres personnes. André, un homme par lequel Jésus a commencé à construire son Église. André, il avait déjà une disposition de cœur, dans son cœur, après avoir entendu le message de Jean-Baptiste, qui annonçait que la venue de Jésus soit proche. Et il a vu Jésus venir. Donc il a saisi le moment. Il a saisi sa chance de dire, voilà, maintenant je voudrais suivre celui en qui j'ai cru, qui m'a été annoncé par des témoignages. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Mes oreilles l'ont entendu. Je l'ai rencontré. Celui qui était annoncé, il est venu et il est venu dans ma vie. Il a désiré de vouloir vivre une vie renouvelée par la grâce de Dieu. Comme disait son ancien maître Jean-Baptiste qui disait, « Vous recevrez un baptême d'en haut. Moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui viendra après moi, celui qui sera appelé le Messie, vous allez recevoir un baptême qui vient d'en haut et vous serez baptisés dans l'Esprit Saint de Dieu. » Marc chapitre 1, verset 8. Imaginez l'attente d'André de pouvoir rencontrer celui sur lequel il avait, duquel il a entendu tant de promesses, sur lequel reposaient des promesses qui vont être pour sa propre vie à lui, la vie d'André. André, il a cru cette bonne nouvelle avec beaucoup d'autres hommes comme lui. Au commencement, il fut. Beaucoup de contes, mais aussi beaucoup d'histoires, commencent avec ces paroles. Au commencement, il fut. Et j'ajouterai, au commencement, il fut un simple témoignage. Un simple témoignage. À l'origine de l'histoire avec Jésus, pour André, c'était le moment où Jean-Baptiste lui avait parlé le premier. Jésus lui a été témoigné par la bouche de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui avait parlé de Jésus le premier. Il se peut que vous soyez aussi des personnes qui témoignent de la foi pour la première fois. Pour la première fois, à des personnes qui disent « Jamais personne m'en a parlé de Dieu comme toi tu le fais. » Parce que qu'est-ce que nous avons entendu parler de Dieu en général? Ce sont à la fois des clichés et des vérités qui concernent l'Église. J'ai rarement rencontré des personnes qui m'ont carrément dit « Je ne crois pas en Dieu ». Ils m'ont dit « Laisse-moi tranquille avec l'Église ». Et quand ils ont commencé à me raconter de ce qu'ils connaissent de l'Église, je me disais « Non, je ne vais pas aller dans cette Église non plus ». Mais j'ai rencontré Jésus. Et c'est la personne qui m'a fait découvrir son Église. Et c'est Jésus qui a transformé ma vie. Ce n'est pas l'Église. Parce que les gens ne connaissent pas Jésus, ils restent dans le refus de ce préjugé, de ce cliché. Dieu, laisse-moi tranquille, Dieu. Je connais l'Église. C'est qui d'ailleurs la première personne à qui tu as témoigné de ta foi toute nouvelle? Tu te rappelles? Qui était la dernière personne à qui tu as témoigné de ta foi? Vous voyez, nous sommes les envoyés que Dieu met sur la route d'autres personnes, comme Dieu nous a envoyé aussi des personnes sur notre route à nous. Est-ce que la foi est tombée du ciel, sur ta tête, ce que craignent les Gaulois, hein, que le ciel leur tombe sur la tête? La foi ne tombe pas sur la tête. Il vient d'en haut, certes, mais il vient de la bouche et par le comportement d'une personne qui témoigne par sa vie de qu'est-ce que c'est découvrir Jésus et comment vivre avec lui. Jean-Baptiste lui avait parlé de Jésus le premier. Et sans avoir entendu le témoignage de Jean-Baptiste, André n'aurait pas été touché. Il n'aurait pas été touché par le message de la grâce. Est-ce que tu te rends compte que nous privons par notre silence, par notre retenue, par notre prudence, ou timidité, ou peur, ou craque, ce que tu mettras comme empêchement? Qu'est-ce que tu as déjà, qu'est-ce que j'ai déjà empêché? Que la grâce de Dieu puisse toucher des cœurs, des hommes et des femmes. Parce que je n'ai pas témoigné de ma foi. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas vu la situation, je ne savais pas quoi dire. Si Jean-Baptiste n'avait pas parlé le premier, André n'aurait pas été touché. Et nous vivons parmi des personnes que Dieu veut toucher. Et toi, c'est la personne que Dieu voudrait utiliser. C'est à travers de toi que la grâce voudrait toucher leur cœur. Le témoignage de Jean-Baptiste a fait trouver la foi à André et il a pu suivre Jésus. Chacun est important. Ne sous-estimez pas la personne que vous êtes et le pouvoir de ton témoignage pour la vie d'autres personnes. Jésus nous invite à trouver en lui le salut que nous avons toujours cherché au fond de notre cœur. Verset 38. Jean-Baptiste vit Jésus passer et lui dit « Voici l'agneau de Dieu !» Et deux de ses disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. L'un d'eux était André. Ils suivent Jésus. Jésus les remarque, il se tourne vers eux et la première question qu'il leur pose, c'est « Que cherchez-vous ? » D'ailleurs, dans l'Évangile selon Jean, sont les premières paroles citées de la bouche de Jésus. « Que cherches-tu ? » Bonne question. Qu'est-ce que tu cherches, toi ? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie ? Qu'est-ce que sont tes questions pour lesquelles tu as bien trouvé des réponses ? Que cherches-tu ? Bonne question. Combien de fois c'est exactement cela ma porte d'entrée dans un échange de témoignages? Parce que chaque être humain a une forme de vide dans son cœur que rien et personne peut remplir que Dieu lui seul. Ça vient du fait que Dieu est notre Créateur à nous tous. Si sur notre route nous avons perdu ou jamais connu le Créateur, la place reste vide. Mais notre âme se rend compte que quelque chose manque dans notre vie. Pour cela, tout être humain, qu'importe leur culture, leur religion et l'époque où ils vivent, les êtres humains sont spirituels. Les religions du monde, aussi variées soient-elles, ont comme seule source commune qu'il y a un vide dans le cœur de chaque homme et chaque femme que seulement Dieu peut remplir. Et quand je parle avec une personne, je cherche exactement par la prière de pouvoir toucher ce vide. Et combien de vides existent-ils? Et combien de personnes m'ont dit, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a quelque chose en moi qui ne trouve pas de réponse. Et d'ailleurs, je ne sais pas où chercher, à qui demander. Que cherchez-vous? Cette réponse presque banale est donc la première parole que l'évangéliste Jean nous fait entendre de la bouche de Jésus, d'où son importance. D'où son importance. Que cherchez-vous? Elle semble être banale, mais en vérité, c'est peut-être la question la plus profonde que quelqu'un peut nous poser à nous. Que cherches-tu? Que cherchez-vous? La question que Jésus leur pose, nous pouvons tous nous la poser quand nous commençons à suivre Jésus. Qu'est-ce que j'espère trouver en Jésus? Qu'est-ce que j'espère? Certains disent, je voudrais que ma vie trouve enfin la bonne route. D'autres disent, je voudrais espérer de nouveau. D'autres disent, j'espère trouver en Jésus une guérison intérieure. D'autres disent, j'espère trouver en Jésus une réponse à ma culpabilité. Et chacun pourrait mettre sa réponse de ce qu'il cherche. Et la réponse que Jésus leur donne, verset 39, venez et vous verrez. Venez et vous verrez. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Mais venez et vous verrez. La réponse est aussi brève que la question. Que cherchez-vous? Venez. Et vous verrez, Jésus les invite à venir, mais sans délai, c'est sur la route. Il ne dit pas, écoute, je vais voir mon agenda, comme moi souvent le fais avec vous, je vais voir mon agenda à la maison, on va se téléphoner, on va trouver une date ensemble, n'est-ce pas? Tellement nous sommes occupés et trouver un moment, c'est important. Jésus dit, écoute, vous posez la question, mais écoutez, parlons-en tout de suite. Vous voyez la disponibilité de Jésus. Deux personnes s'intéressent à qui il est. Parce qu'ils ont cru le témoignage de Jean-Baptiste. Ils veulent savoir davantage de qui est Jésus. Et Jésus, il se rend disponible. Est-ce que tu as aussi cette disponibilité de cœur? Quand Dieu prépare des moments précis, ici et maintenant, commencez à lancer les gens sur une piste, à mettre l'eau à la bouche, comme on dit, ou se prendre du temps, parce que tiens, j'ai 15 minutes, allons, parlons-en, ainsi de suite. Maintenant, dit la Bible, c'est maintenant le temps favorable. Et ce maintenant n'est pas précisé. Maintenant, toujours les mardis. Maintenant, toujours les dimanches. Mais le dimanche de 10h30 à midi seulement. Maintenant, c'est toujours. Maintenant, c'est maintenant. Tu peux le dire cet après-midi, maintenant, et ça sera maintenant. Tout moment est bon pour trouver Christ et de trouver réponse aux questions de notre vie. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe. Au moment favorable, dit Dieu. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Quelle promesse! Dieu veut nous exaucer, exaucer nos prières. Non pas seulement les entendre, les enregistrer et répondre quand il aura le temps. Au moment favorable, c'est maintenant. Je voudrais répondre à ta prière, à ta recherche, à tes questions. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le moment de ton salut. Maintenant le temps de ton salut. Pour moi, c'est un grand privilège si je peux accompagner les personnes aussi loin jusqu'à ce qu'ils trouvent eux-mêmes la foi en Jésus. Je me rappelle de quelqu'un qui était que de passage à Nantes. Il est venu à la maison à cause d'un traité que je distribuais. Il est venu pour un café et le café il s'est terminé à genoux sur le tapis juste à côté de notre table basse, ronde. Et sur ce tapis, il a trouvé son salut. Génial! Je dis, Seigneur, la semaine a 7 jours. Envoie-moi une personne par jour. Ou 2, ou 3, ou 4. Quand la dernière fois, tu as pu conduire une personne à Jésus. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Non pas seulement le bonheur pour la personne qui découvre grâce à toi. Parce que Dieu parle à travers de toi. Par des paroles qui sont les tiennes. Avec la simplicité ou d'une manière intelligente. D'une manière ou d'une autre, Dieu parle à travers de toi. Et tu vois, une âme est touchée. Et tu dis, finalement, c'est pas moi qui a parlé. Et tu as raison. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers de toi. Jésus dit en chapitre 7, en Jean chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif de vivre, par exemple, soif de vivre, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau jailliront de lui. Là, ça va jaillir tellement que tu seras trop lent pour boire. Tu vas toujours boire et Dieu remplit toujours de nouveau. Et en Apocalypse chapitre 22, verset 17, il est écrit, « Viens, que celui qui entend ces paroles dise, viens, que celui qui a soif, vienne. » Vienne, vienne, viens. Vous avez entendu ces paroles? Viens. Venez, et vous verrez. Toujours cette invitation. Venez à moi et recevez la vie éternelle, dit Jésus en Jean chapitre 5, verset 40. Pour connaître Jésus, il faut passer du temps avec lui, verset 39. Il est bon pour nous d'être là où est Jésus. Quand Jésus les invite, venez voir. Le texte dit qu'il est à peu près 4 heures dans l'après-midi. 4 heures dans l'après-midi, ça vous dit quelque chose en France? 4 heures dans l'après-midi? Goûter, exact. C'est le goûter. Temps pour prendre un goûter avec un bon café. Sauf qu'à l'époque, le café n'était pas encore connu en Palestine. Qu'est-ce que je suis content de vivre aujourd'hui. Ce qui surprend, l'évangéliste Jean ne dit rien, il se tait sur tout ce qui est partagé autour de ce goûter, de ce café qui n'existe pas encore. Comme il y a des choses qui sont tellement personnelles, qui sont tellement à nous, tellement intimes, parfois compliquées, qu'il faut avoir un espace réservé. Un espace réservé avec Jésus, mais un espace dans lequel je peux ouvrir mon cœur. Et j'imagine ce temps de goûter entre Jésus et ses disciples répondait à leurs motivations et leurs questions. Que cherchez-vous? À nous de nous mettre nous aussi à table avec Jésus, nous aussi de poser nos questions intérieures. À nous aussi de parler à Jésus de nos fardeaux, de ce que nous portons en lourd, de lui parler cœur à cœur. À nous aussi de nous laisser assurer et rassurer par les réponses qui nous sont données par la parole de Jésus. Parce que Jésus serait-il vraiment la réponse à ma vie? Ma vie qui cherche à trouver une orientation, qui cherche encore son chemin, est-ce que Jésus serait vraiment la réponse à toutes ces choses dont j'aurais besoin par exemple, un renouvellement ou trouver un sens à ma vie. Beaucoup de gens se posent ces questions. Dieu merci s'il y a un témoignage. Dieu merci s'il y a un moment favorable. Dieu merci pour le café et le goûter. Merci Seigneur pour tous les moments que j'ai passés à table et j'ai pu témoigner en France. C'est comme au temps de Jésus. Mais combien de temps on passe à table? Comme si c'était le meuble le plus important. Dieu merci pour la personne qui a inventé la table. Les meilleures discussions, les meilleurs témoignages, je les connais assis autour d'une table. Et je peux m'imaginer que vous aussi, vous avez une table à la maison et que vous vous invitez régulièrement, de temps en autre, les personnes avec lesquelles vous voulez non pas seulement passer du temps, mais avec lesquelles vous allez bien aussi partager votre foi. Ça se passe autour d'une table. D'ailleurs, à Jésus, on a reproché qu'il passait trop de temps à table, qu'il était un mangeur et un buveur, disaient ses adversaires, et il était toujours accompagné par des mauvais gens. Il mangeait et buvait en mauvaise compagnie, avec des pécheurs. Franchement, super, je voudrais suivre le modèle de Jésus. Donne-moi des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Donne-moi des personnes, je vais les inviter à table, qui cherchent encore comment trouver une vie nouvelle. Et leur vie actuelle est en plein désordre. Je serai comme Jésus. Être assis, manger et boire, vous voyez, j'aime témoigner. Hein? C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Ceux qui viennent à Jésus doivent venir avec cette ferme résolution de vouloir demeurer d'une manière constante envers lui. André a trouvé en ces moments qu'il a passé avec Jésus sa foi. Il a trouvé dans la présence de Jésus son sauveur. Non pas seulement le sauveur du monde, mais surtout son sauveur personnel. Si tu ne connais pas encore Jésus en tant que Seigneur personnel, je t'invite maintenant à une prière. Ça va être uniquement une petite parenthèse. Avant, nous allons continuer. Prions. Aujourd'hui, je te reçois Jésus dans ma vie. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné mes fautes. Merci de m'avoir pardonné mes erreurs. Ta mort sur la croix m'a apporté la vie. Désormais, je voudrais te suivre comme un vrai disciple ou comme une vraie disciple. Amen. C'est la prière. C'est parmi les prières, celle que je préfère. Vous savez pourquoi? Parce que cette prière, je prie avec d'autres personnes. Et combien de fois j'ai prié cette prière avec d'autres personnes? Et des personnes qui me disaient, tu sais, j'aime bien recevoir Jésus, mais je ne sais pas quoi faire. Mais je dis, mais dis-le. Ah, priez. Je ne sais pas prier. Je dis, est-ce que tu sais téléphoner, toi? Au moins, c'est la même chose, tu vois. Aujourd'hui, on n'a même plus de câble pour voir qu'on est connecté. Tu vois? On ne voit pas la personne. On parle dans cet appareil comme si l'autre personne pouvait nous entendre. Et nous entendons sa voix. Et nous ne voyons pas son image. Et nous croyons fermement de ce que nous entendons en retour nous vient de la personne avec laquelle nous téléphonons. C'est pas la foi, ça? Ce que j'ai trouvé dans ma foi en Jésus. Ce que j'ai trouvé dans la foi en Jésus. Vous voyez, je suis même pas actualisé là avec mes tableau là. Ce que j'ai trouvé dans ma foi en Jésus, je désire le partager avec d'autres personnes qui me sont chères. Quelqu'un m'a dit, tu sais Olaf, je ne sais pas à qui je dois le dire. Mais à qui je peux témoigner de ma foi? Oui, c'est vrai, nous sommes entourés de tellement de personnes, tu vois, si ça clignotait à l'oreille droite ou le nez, tu vois, les personnes disposées d'entendre ton témoignage, tu suis uniquement les clignotements. Voilà, c'est bien. Pour une fois, c'est bien. Mais on ne découvre pas les personnes comme ça. J'aime bien qu'un doigt qui descend du ciel et monte directement sur une personne. Ah, je vois le doigt du Seigneur, donc je vais vers cette personne. À qui je dois le dire? Faisons simple. Commence avec les personnes qui te sont chères. Ceux que tu aimes le plus. Ceux que tu aimerais bien voir avec toi dans la vie éternelle. C'est peut-être pas ton voisin, mais c'est peut-être ton collègue ou un camarade dans un club de sport que tu pratiques. Sur le champ, et la Bible dit, sur le champ, André s'est mis à la recherche de son frère. Pour André, Pierre, son frère aîné, était la personne la plus importante à qui il pensait. Est-ce que tu as aussi une personne à qui tu penses maintenant, que Dieu met sur ton cœur? C'est peut-être la personne, c'est sûrement la personne avec qui Dieu voudrait t'envoyer pour témoigner de ta foi. Mais par où commencer pour gagner les personnes pour Christ? Je dirais, commence tout simplement par une prière pour eux, avant que tu leur parles, mais commence à prier pour eux. Tisse des relations personnelles avec des personnes qui sont autour de toi. Commence à leur parler de ce que tu as trouvé toi-même en Jésus. Et invite-les et emmène-les à l'église, dans le groupe de maison. Voilà 5 étapes pour témoigner de notre foi en Jésus. Je vous ai parlé de la prière. Tournez-vous d'abord vers Dieu. C'est la prière par laquelle Dieu transforme la vie des hommes. Priez pour les personnes que Dieu met sur ton cœur et commence à prier particulièrement pour ces personnes à qui tu penses maintenant. Mais priez aussi pour vous-même. Dieu vous transforme par son Saint-Esprit et il vous donne des occasions de communiquer de son amour. Dieu, montre-moi comment le dire. Voilà ma prière. Deuxième, regardez autour de vous. Chacun de vous a une sphère d'influence. C'est la famille, le voisinage, le travail, aux études, aux loisirs. Vos contacts quotidiens vous offrent de nombreuses occasions de susciter la curiosité. La curiosité. Les gens se demandent pourquoi tu te distingues dans ta façon de vivre et de parler. Pardon, j'ai dit tu te distingues de ta façon de vivre et de parler. J'espère. C'est simplement dans la grande masse, okay, que tu en découvres personne. Ce sont tous des anonymes. Et quelqu'un qui fait la différence, tu vois, il sort de cette masse. Et cela suscite la curiosité. Qu'est-ce que j'aime cette histoire, cette question qu'on me pose. Mais monsieur Géné, comment vous faites? Dites-moi. Je trouve ça génial. Déjà parce que c'est un complément, parce que je le prends pour, hein, voilà. Et deuxièmement, j'ai suscité l'intérêt d'une personne qui se demande, mais pourquoi lui, il agit ou parle ou se comporte d'une manière différente, différente des autres. Vos contacts quotidiens vous offrent de nombreuses occasions et priez pour les personnes que Dieu voudrait toucher à travers vous avec l'Évangile. Commencez à établir une liste. Peut-être cette liste n'est pas très longue, peut-être ça contient un premier nom auquel va s'ajouter un deuxième ou un troisième. Mais voyez ces personnes, regardez autour de vous et demandez au Saint-Esprit, quelle personne voudrais-tu mettre sur ma conscience, sur mon cœur, dans mes yeux, pour que je les mette sur ma liste de prières. Et puis, il y a une promesse dans la Bible qui dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez des occasions d'approfondir vos relations avec des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Cherchez exprès des personnes qui sont encore loin de la foi. Ne cherchez pas ceux qui sont au plus près de la foi. Cherchez aussi ceux qui sont loin. Et approfondissez des relations avec eux afin que ces relations ne restent pas superficielles. Quand je vous ai dit, pour connaître Jésus, il faut passer du temps avec lui. Aussi vrai est le même principe. Prenez du temps, le temps nécessaire, et si nécessaire, modifiez vos priorités pour pouvoir passer du temps à table avec d'autres personnes. Au barbecue, à arrêt de bus, là où on peut parler. Et quatrième, allez à la rencontre des autres, des personnes qui vous en chèrent, invitez-les d'une manière courageuse. Courageuse et surtout détendue. Relax, les amis. C'est Dieu qui fait. Vous serez témoins, certes, mais soyez relax. Dieu est à l'œuvre. Et c'est le conseil que donne l'apôtre Paul à son jeune collaborateur Timothée en 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Et tu dis, moi je suis grand timide, surtout quand il s'agit de la foi. Mais rassure-toi, dans l'esprit de Dieu existe ce courage, cette transformation de la timidité au courage et être détendu dans son témoignage. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et, ce qui est important, la sagesse. Quoi dire et à quel moment? Mais dire quelque chose à des moments. Et Paul dit de lui-même en Romains 1, 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. C'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Et quand moi je prie pour des personnes et quand je parle avec des personnes, je compte exactement sur cela. La timidité, c'est pas mon truc, vous me connaissez. Mais je compte sur la puissance de l'action du Saint-Esprit dans ce moment précis, dans ce moment favorable du salut. Et je compte sur cette puissance pour tout homme qui croit. Et en dernier point, cinquième point, accompagner les personnellement, ceux qui manifestent un intérêt à l'évangile ou à l'église, accompagnez-les personnellement. Ne donnez pas un rendez-vous à l'église. Dites, je passerai chez toi et on va ensemble. C'est la meilleure façon de franchir ce seuil, parfois difficile ou certainement difficile pour certains ou beaucoup, de franchir le seuil d'une église. Je te prends à la main, on y va ensemble. Ils ont besoin d'aide, ces personnes, et ils ont besoin d'un encouragement. Voilà ce que je voudrais leur apporter. Préserver dans la prière pour ceux qui ne manifestent pour l'instant, pas encore un autre intérêt pour Jésus. Parce que leur temps favorable, leur moment favorable viendra. Et à ce moment-là, je voudrais être à leur côté. C'est pour ce moment-là que je vis et pour lequel je prie. Donc, restez en relation avec eux. Un semeur attend patiemment la moisson. Sans bien conclure. La suite dans la biographie d'André nous est pas connue d'une manière et d'une façon certaine. La Bible ne parle plus d'André. C'est là où il met le spotlight, la lumière sur de ce que André a trouvé pour lui-même et de quoi il témoigne pour des personnes qui lui sont importantes et qui lui sont chères. Selon la tradition de l'Église, André était le premier apôtre qui est allé prêcher l'Évangile dans la Grèce actuelle, après les persécutions à Jérusalem. Mais son passage et l'Évangile dont il parlait, le témoignage qu'il a rendu n'avait pas plu aux Romains, au gouvernement, et ils l'ont crucifié. La croix sur laquelle André a été cloué, vous la connaissez tous. Ce n'était pas une croix avec une poutre horizontale et verticale. C'était une croix en forme de X. Où trouvons-nous aujourd'hui, dans notre quotidien, cette croix de X? Parce que la France entière est remplie de cette croix en forme de X. Qui a un permis, qui se rappelle d'un code de route. Hein? Quel cafou? Pardon? Quand vous voyez cette croix, qu'est-ce qui va croiser votre route? Des trains. Des trains. Des trains. Tout passage à train hein, commence avec des barques, 3 barres, 300 mètres, 2 barres, 200 mètres, 1 barre, 100 mètres, croix. Cette croix porte le nom, la croix d'André. C'est la croix d'André. Et il était cloué sur une telle croix.
Et c'est pour ça
qui porte... Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là. toujours, et là, je trouve ça, là, ce que je viens de dire là maintenant, je trouve particulièrement émouvant. Toujours d'après cette même légende, il est dit qu'il avait refusé, cloué sur cette croix, il avait refusé que ses disciples le libèrent la nuit. Parce qu'il agonisait, ceux qui étaient crucifiés agonisaient pendant des jours sur cette croix. Okay. Il avait refusé à ce qu'il soit libéré par ses disciples. Il disait, partez! Partez et usez du temps qui vous reste encore pour témoigner de Jésus. Et chaque fois que vous voyez cette croix d'André, rappelez-vous, c'est une croix de témoignage. Lors de sa crucifixion, des nombreuses personnes sont venues écouter pendant des dizaines d'heures le témoignage d'André. Que cherchez-vous? André pouvait leur en parler. Qui se rappelle de Vercingétorix et de César? César, il avait un slogan particulier. Je suis... Vidi Vidi Vici. Hein? Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Et André, lui, il avait aussi un slogan. Je suis venu, j'ai vu et j'ai trouvé. Permettez à d'autres personnes de pouvoir découvrir comme lui cette foi. Et j'aimerais bien terminer avec un moment publicitaire. Et à chaque fois que chez Leclerc, quand je passe et je vois ces feuillettes pour nettoyer les verres des lunettes, hein? Vu, ah, pour slogan publicitaire, qui a vu verra. Vu. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ceux qui veulent le suivre et découvrir davantage de qui il est? Venez et vous verrez. Vu. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes venus à l'invitation de quelqu'un et nous t'avons rencontré. Nous bénissons cette personne. Nous bénissons ces personnes qui étaient sur notre route et qui ont témoigné de leur foi en toi. Et aujourd'hui, nous voulons de notre tour être ceux qui témoignent de notre foi à des personnes qui vivent autour de nous. Seigneur, donne-nous ton esprit, donne-nous à saisir le moment favorable. Parle par ton Saint-Esprit à travers de notre bouche que nous mettons à ta disposition afin que beaucoup soient encore sauvés parce que le moment est encore favorable au salut. Amen.